Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Bonjour, Docteur Mayou.
Oui, Catherine, on a plusieurs points. Raphaël, Serge, Claude.
Oui.
Claude le sceptique sera confondu ce matin.
Bon, alors, allez-y donc.
Oui, ben écoute, concernant l'étude de Raphaël, effectivement, écoute, ça fait 39 ans que je sais ça, moi, puisque je l'applique. Lorsque j'évalue des jeunes autistes, lorsque j'évaluais des jeunes autistes, dans le temps que j'étais sécuritaire pour les jeunes enfants.
Oui, parce que maintenant, vous êtes dangereux.
J'étais le spécialiste du Centre du Québec.
C'est vrai?
Pour les troubles autistiques. Et effectivement, les mères expérimentées s'aperçoivent dès 3-4 mois que leur enfant n'est pas normal. Et elles ont un gros pincement intérieur, j'en ai vu beaucoup. Et là, elle en parle au pédiatre. Pédiatre les rassure. Il y a un trouble, il y a une difficulté à établir un contact visuel avec le bébé.
Mm-hmm.
Alors, les coucous, les rires, les cossins que les mères font avec le bébé, c'est dans le but d'établir un contact visuel.
OK.
Les bébés autistes et c'est de naissance vont établir peu et de façon erratique un contact visuel avec la mère. Et la mère, lorsqu'elle s'aperçoit de ça, elle a un gros pincement intérieur.
Ben,
avec raison.
Ben, avec raison, parce que, mais dans le fond, la pression est intéressante. Donc, vous nous confirmez, un, qu'on est autiste, c'est une naissance.
Ben oui, évidemment.
Non, mais parce que tout à l'heure, tu disais, ça peut aider. Mais
ben, en fait, ce que je
disais, c'est... faire, ça permet juste de
le découvrir.
De le découvrir que ton enfant peut être autiste, c'est
maintenant,
ça?
Maintenant, c'est jamais pareil d'un à l'autre.
Oui, évidemment.
Alors, certains évoluent pas pire jusqu'à 3 ans et ensuite régressent, peuvent même perdre des acquis. J'ai tout vu dans les cas d'autisme.
Est-ce que, j'ai une question, vu que vous êtes spécialiste là-dedans, j'ai déjà entendu dire, est-ce que c'est une rumeur ou une légende urbaine que le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants tard, des femmes de 45, 50 ans,
oublie ça.
Il n'y a pas de lien avec les enfants autistes, non?
Oubliez ça.
Non, ben, je vous posais la question, je l'ai déjà entendu.
Non. Il y a plein de légendes urbaines, non.
OK. Mais donc...
Alors, jadis, surtout du côté francophone à Montréal, du côté de l'Université de Montréal, ils avaient tendance à avoir toute une série de diagnostics.
Oui.
Par exemple, on parlait d'Asperger, on parlait d'audimutité, puis il y a toutes sortes de cossins comme ça que la chapelle de la psychiatrie infantile montréalaise avait développé. Alors que maintenant, on parle... C'est toute la même maladie, c'est jamais pareil d'un cas à l'autre.
Ouais.
Alors, arrêtez de scinder ça en 8 diagnostics, c'est des troubles du spectre de l'autisme.
OK.
Et j'ai toujours dénoncé le charabia de la chapelle de la psychiatrie montréalaise de l'Université de Montréal. Et ils m'ont haï pour ça, tu sais.
Ah oui, les autres aussi, hein? Il y en a quelques-uns.
Avec raison.
Bon, OK. Docteur Mayou, beaucoup de sujets ce matin. Je veux absolument vous entendre. Puis merci à Steve, tout à l'heure, qui nous a envoyé le lien. Le pape François qui a recommandé à la psychiatrie, la psychiatrie lorsque des parents constatent des penchants homosexuels dès l'enfance chez leur progéniture. Moi, ça m'apparaît burlesque. Y a-tu juste moi?
Ben, ce n'est pas burlesque, c'est arriéré.
Ah bon, d'accord.
Alors, papou, 50 ans en arrière. Alors, papou, sors de l'Argentine ou sors l'Argentine de toi, t'es 50 ans trop tard. Le diagnostic d'homosexualité a été retiré, jadis naguère, il y a 40 ans, 45 ans, 50 ans, du manuel des diagnostics de psychiatrie. OK?
Mm-hmm.
Alors, c'est une variante de la nature, c'est... présent chez les humains, mais chez aussi de nombreuses espèces de mammifères.
Je vais continuer, Docteur
Mayou. C'est pas tout le monde, soyez sans crainte, ça s'attrape pas. Par contre, papou, il est pas si niaiseux que ça. Il a fait la différence entre l'intervention auprès d'un jeune et puis après 20 ans.
Ouais.
Pas pire, papou!
Ouais, ben c'est là où je voulais aller, parce qu'il dit quand ça se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie pour voir comment sont les choses. C'est autre chose quand cela se manifeste après 20 ans. Mais c'est quoi la différence?
Ben, et chez les enfants, on les laisse tranquilles et après 20 ans, on l'accepte.
Ah, OK. C'est une bonne réponse. Vous devriez l'appeler. Peut-être lui expliquer les choses.
Hé, crépapou, il est mal renseigné.
Ouais.
Non, mais écoute, le fatigant, là, j'ai bien dit le fatigant, c'est une vieille patente. Et ça paraît.
Ben en fait, il nous ramène en arrière quand, à l'époque, ça a été considéré longtemps comme une pathologie médicale. On est de retour là.
Pathologie, oui, oui, oui. Il veut nous ramener là, mais pauvre papou.
Hein, on ne veut pas aller là. Hein?
Non.
On n'a pas besoin de tout ça présentement.
Non.
Autre chose pour vous ce matin, il y a un dossier à la une de la Presse Plus. Je suis juste curieuse de vous entendre là-dessus, parce qu'on en parle souvent. À quel âge les enfants peuvent posséder un cellulaire? À quel âge ça commence à être correct pour le développement de l'enfant? J'ai vu des enfants, Dr Mailloux, 6, 7, 8 ans avec un cellulaire. C'est-tu bon ou c'est pas bon?
Ça dépend. Ça dépend des enfants.
OK. Mais vous, vous n'avez pas de... comme
les enfants... Non. Les enfants ne sont pas un groupe homogène. OK?
Ouais.
Et tu sais maintenant, à l'âge que tu as, que les adultes ne sont pas un groupe homogène.
Oui, j'ai compris ça. Oui.
Ben oui, mais lorsqu'ils étaient enfants, il y avait autant de différences.
Absolument.
Alors, dès que, Catherine, on amalgame un groupe d'âge, un groupe d'êtres humains, d'un âge, d'une race, d'un sexe, on est nécessairement dans l'erreur avec notre affirmation. Quasi à tout coup.
Okay, donc,
la question, à quel âge? C'est d'une insignifiance. Non, on peut pas.
Non.
Il y a des enfants à 7-8 ans qui sont très responsables. Puis il y en a d'autres, là, entre les deux oreilles, qui ont un petit poids. Mais à 40 ans, le poids sera pas beaucoup plus gros.
Fait que finalement, le cellulaire, il est pas mieux à 40 ans qu'à 12 ans, là, dans certains cas. C'est ce que je comprends de votre...
Écoute, ça va être n'importe quoi.
OK. Non, mais moi, c'est aussi dans l'optique de la dépendance. La dépendance à tout ce qui est électronique. Je me dis, est-ce que risques...
Non,
vous le savez. Moi, je m'inquiète de plein d'affaires. Là.
La dépendance aussi mécanique chez les bûcherons.
Que vous nous sortez là.
Mais au Ciotte, avant le scie mécanique, on bûchait au Ciotte. Dépendance à la scie mécanique.
Ah, c'est, j'avais pas pensé à ça.
Maudite scie mécanique. puis ça peut vous ouvrir une jambe, ça peut vous couper. Quand ça rue, ça vous revole dans le visage, dans le thorax. Maudite scie mécanique.
Bon.
Maudit bûcheron. Si on revenait au Ciotte.
OK, on pourrait.
Le Ciotte, il n'y avait pas de. Écoute, il n'y avait jamais d'accident.
Non. Moi, je ne l'ai pas vu venir, celle-là, la dépendance aussi mécanique. Je connais pas personne dans mon entourage qui est aux prises avec ça, par exemple. Mais bon, ça, peut-être que...
Non, demande au gars, il y en a plusieurs qui savent.
Ah oui? Bon, fais-nous donc, là. Y a-tu des dépendants aussi mécaniques, le matin?
Oh, dans le milieu rural, là, après, là. Puis même des médecins, écoute. Oui, plusieurs confrères médecins qui bûchent comme passe-temps.
Sont-ils dépendants de leur scie mécanique? Elle est excellente, peut-être. Je l'adore. Bon.
Puis la conjointe vient en maudit parce que le gars s'en va sur sa terre à bois puis s'en va bûcher dès qu'il y a un moment de temps libre. Il y a eu un cardiologue comme ça dont la conjointe était jalouse.
Ah oui?
Et puis, ben lui, dès qu'il y avait un moment de libre, il rentrait à 9h, 9h30 le soir, prenait son plat de gruau puis allait se coucher. Il avait droit à 2-3 heures là, de délire de jalousie.
Ah oui?
Ben, et dès qu'il y avait un moment de libre de clarté, ben il allait bûcher sur sa terre à bois. Ça fait qu'il était dépendant de sa scie mécanique.
Peut-être avait-il des raisons de ne pas être présent beaucoup à la maison. Tu sais, des fois, on peut se poser la question. Des gens qui sont jamais chez eux, pour toutes sortes de raisons, peut-être ça ne lui tente pas tant que ça d'être à la maison. Je ne sais pas. C'est une explication.
Oui,
c'est une possibilité.
Et Risky, un petit mot sur... écoute, il y a deux femmes qui se font aller le clapet, puis j'aime pas tellement ça, là.
Mais non, des femmes qui se font aller le clapet, vous n'aimez pas ça, certains? Hein? On vous
Catherine.
Connaît?
Catherine.
Excusez, c'était facile. Allez-y, complétez, oui. Page
c'est
4.
Pas journal... vrai, tu le sais très bien.
Ben non, je vous agace. Elle était facile, celle-là. Ça
alors, le féminisme de façade, là, on va-tu... Il y a une nouvelle problématique.
Oui.
Dans la rhétorique. Oh! Nouvelle problématique dans la rhétorique politique.
Oui.
N'est-ce pas bien dit?
Ah, tu as très bien dit.
Autrement dit, les temps évoluent et on dit à peu près n'importe quoi. On a toujours dit à peu près n'importe quoi dans la politique, mais de façon différente. Et là, on nous soulève la grande Risky et Saint-Pierre, Christine Saint-Pierre, nous parle du féminisme de façade.
Ouais.
Il faut être sérieux. Il ne faut pas faire du féminisme de façade.
Là, vous faites référence à, parce que je replace en contexte, il est question de la nomination de Ghislaine Bourdon chez les libéraux. Et là, on sait que du côté de la CAQ, on a dévoilé des textos qui avaient été envoyés par Mme Bourdon et la CAQ. Et là, en faisant ça, ça a l'air que François Legault est un sexiste et fait du féminisme de façade. Alors, de là, le contexte.
C'est épouvantable.
Et on le compare à Donald Trump. Hein? On a poussé ça jusqu'à le comparer à Donald Trump, François Legault.
Les deux, là, je ne sais pas trop laquelle des deux, là, si c'est... Ben, c'est Risky.
Moi, c'est Marois Risky.
Oui. Ça me rappelle tristement les politiques de notre voisin du Sud, Donald Trump. Hey, au niveau du jugement, là, ce matin, là, c'est pas sa meilleure risquée. Il faudrait que quelqu'un lui dise, écoute, fais attention, là. Comparer Legault à Donald Trump, c'est d'insulter Donald Trump, là.
Bon, OK. Je vous ai tellement vu venir en plus. Il va encore trouver une façon de le défendre. Ah oui, OK. Ah bon, c'est...
Catherine,
oui.
Je t'aurais au moins fait rire.
Absolument. Ce matin, beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé la dépendance aux scies mécaniques que je n'ai absolument pas vu venir. Des fois, je vous vois venir, mais pas sur celle-là.
Non, non, mais je suis tanné, là. Les dépendances à la technologie moderne, maudit. Ça me rappelle l'avènement des scies mécaniques à partir du Ciot. Tu sais, quand même.
Ouais. Mais là, vous.
Hey, j'en reviens pas!
Mais là, on parlait de dépendance aux jeux vidéo. Là, avec la tuerie en fin de semaine, là, c'est relancé. Là, c'est la faute des jeux vidéo si le monde se tue. Là, c'est, non, mais c'est, ça, c'est toujours fascinant. Les jeux vidéo, les films d'horreur. Écoute, c'est...
Papou François, il est pas le seul à être niaiseux. Il est pas le seul.
Ben, tu sais, faut se faire attention. C'est
de croire que la psychiatrie va réorienter sexuellement un être humain. Tu sais, il faut le faire.
Ben, c'est un peu surprenant.
Et de croire que les jeux vidéo fabriquent des assassins, aïe aïe! Ouais,
c'est toujours là où je trouve qu'on grossit. Mmh. Là, tous ceux qui jouent des jeux vidéo ont un potentiel de tuer. Je pense, tu sais, on n'est pas là, là. C'est pas ça la problématique. Mais bon.
On est dans la grande insignifiance.
Ouais.
J'en reviens pas. Je te le dis, je suis obligé de vous sortir une grossièreté comme la dépendance aux scies mécaniques.
Mais j'allais aimer. Vous avez bien fait ça. Docteur Mailloux, il faut s'arrêter ce matin. Okay. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. OK, à tantôt.
Roule, Catherine.
Oui, on roule. Bye. Ça roule. À tantôt. 7h25.